Notre passage ce matin se trouve, comme Alex a dit, dans Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et notre lecture est à la page 612 dans les Bibles blanches. Et nous allons lire à partir du verset 6 du chapitre 1. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous, les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient? Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel, le maître de l'univers? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom, en présent des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée et qu'elle rapporte une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui! Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des boîtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Maintenant, prêtre, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Me voici, je menace votre descendance et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je les lui ai donnés pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors ce matin, nous poursuivons nos prédication dans ce livre, ce petit livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier prophète qui a parlé de la part du Seigneur avant l'arrivée de Jean-Baptiste et Jésus, 500 ans plus tard. Et on l'a dit la semaine dernière, Malachie peut faire revenir, peut ramener le cœur de son peuple vers Dieu, à l'Éternel, vers l'Éternel. Il veut les ramener à l'adoration fidèle. Alors nous allons voir ce matin que ce n'est pas que le peuple avait cessé de pratiquer le culte, mais manifestement son cœur n'y était pas, n'y était plus. Et je pense que c'est pour ça que le message de Malachie a encore toute sa pertinence pour nous aujourd'hui, à notre époque. Nous sommes là ce matin, nous sommes venus à l'église, mais parfois, nous sommes là de louer Dieu. Nous n'avons pas envie de le louer. C'est peut-être le cas de nous tous de temps en temps. Beaucoup de choses dans nos vies peuvent être priorisées, qui peuvent prendre la place de Dieu. Et on peut se poser la question si nos cœurs y sont vraiment. On peut chanter à tue-tête, mais comme nous allons voir ce matin, l'adoration véritable ne se résume pas à nos activités d'église. Dieu désire nos cœurs. Et ce qui se trame vraiment dans nos cœurs se voit dans nos actes. Ce matin, nous allons voir que l'adoration fidèle découle de notre attitude fondamentale envers Dieu, de notre crainte de Dieu. Et pour avoir cette crainte, il nous faut une connaissance juste de l'Éternel. Et nous avons déjà goûté à cette connaissance la semaine dernière dans le passage d'avant. On a vu que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui aime son peuple et qui a prouvé son amour en le choisissant. Ce n'est pas son peuple qui l'a choisi, mais c'est Dieu qui l'a choisi librement, sans aucune obligation et en vertu d'aucun mérite chez son peuple. Et de la même manière, si on est à Jésus ce matin, ce n'est pas parce que nous avons choisi Jésus, mais parce que Jésus nous a choisis. Dieu, selon sa liberté souveraine et mystérieuse, nous a choisis et nous a conduits à mettre notre confiance en Jésus. Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Et nous avons vu que Dieu a aimé son peuple en vainquant les ennemis de son peuple, une fois pour toutes. Il les a protégés d'Édom, l'ennemi héréditaire. Il les a délivrés de la destruction. Et de la même manière, il a délivré ceux qui ont mis leur confiance en Jésus de leurs ennemis, le mal, le malin, la mort. En Jésus, grâce à la croix, nous sommes, nous qui avons mis notre confiance en lui, protégés à tout jamais de la mort, de l'enfer, de la séparation éternelle d'avec Dieu. Nous l'avons vu, Dieu nous aime, Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous a aimés, non pas pour que nous soyons des enfants gâtés, pour que nous soyons un peu au centre de l'univers. Mais il a fait pour dévoiler sa propre gloire, pour manifester à tous combien il est bon. Et ce matin, nous allons voir que cette connaissance de sa bonté, de son amour, ne devrait pas nous laisser sans fruit. Elle devrait saisir nos cœurs pour que nos cœurs se donnent à lui de manière joyeuse, de manière volontaire, sans réserve. Nous sommes ce matin dans la deuxième de six disputes dans ce livre qui structure ce livre. C'est comme ça que Malachie a organisé un peu son discours, son enseignement. On voit à chaque fois que Dieu accuse son peuple et ensuite son peuple nie le bien fondé de l'accusation de Dieu et ensuite Dieu explique pourquoi il a raison et ensuite le processus se répète. Et ce matin, dans cette dispute, c'est les prêtres d'Israël qui sont dans le collimateur de Dieu. Est-ce que vous voyez ça au verset 6 du chapitre 1 et au verset 1 du chapitre 2? Dieu parle aux prêtres de la nation. Et on voit que Dieu n'est pas content. J'aimerais que nous voyions ça ce matin en nous posant deux questions. Est-ce que nous craignons notre bon Père céleste? Et ensuite, est-ce que nous grandissons dans la connaissance de Dieu, de ce roi de l'univers? On va commencer avec cette première question. Est-ce que nous craignons notre bon Père céleste? Et c'est la question que l'Éternel pose aux prêtres d'Israël. Verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due ?» dit l'Éternel, le maître de l'univers, « à vous les prêtres qui méprisez son nom, mon nom. » Et nous avons là le thème de notre passage de ce matin. Dieu est soucieux de son honneur, de sa gloire, de l'honneur de son nom, de sa personne, de qui il est. Dieu veut savoir où est la crainte que l'homme doit à Dieu. Alors c'est très personnel en quelque sorte. Dieu parle d'une relation avec lui. Mais ce n'est pas une relation qu'on peut avoir avec un ami, un copain. C'est une relation avec le Dieu créateur de l'univers. Ce Dieu qui est trois fois saint. Celui qui est, comme le verset 14 nous le dit, un grand roi. Dieu dit, où est la crainte qui m'est due? Et Dieu parle de ce qui doit être au cœur de notre relation avec lui. La crainte. Alors ce n'est pas la peur d'un esclave qui a peur d'être puni, mais c'est la crainte d'un enfant. Un enfant qui respecte profondément son père. Dans le cas de Dieu, c'est un père qui est le roi, le créateur de tout l'univers. Mais Dieu ne trouve pas cette crainte chez les prêtres de la nation d'Israël. Il trouve plutôt le mépris. Alors les prêtres ne voient pas les choses ainsi. Dieu reprend sur ses propres lèvres ce qui est un peu leur défense. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Ils ne voient même pas leur mépris. Ils sont aveugles. Et je pense que c'est souvent comme ça. Sans le savoir, nous pouvons mépriser le nom du Seigneur, la personne de Dieu. Nous n'en sommes pas forcément conscients, mais tôt ou tard, nos actes le dévoilent. Et leurs actes le dévoilaient. Les prêtres avaient la tâche de présenter des sacrifices sur l'autel du Seigneur dans le temple à Jérusalem. Ils devaient suivre des lois, les lois de Dieu, pour le faire de la manière que Dieu souhaitait qu'ils le fassent. Mais nous voyons dans ce que Dieu dit ici qu'ils ne suivaient pas du tout les lois de Dieu. Le verset 7 nous dit qu'ils offraient des sacrifices impurs. Le verset 8 parle d'animaux bien imparfaits, aveugles, boiteux ou malades. Dieu avait dit dans sa loi qu'il fallait offrir, présenter des sacrifices, des animaux en bonne santé, sans défaut, des mâles. Dieu voulait le meilleur, et c'est vrai que le meilleur coûte toujours très cher. Mais les prêtres ont fermé l'œil sur ces mauvais sacrifices que le peuple amenait au temple. Les prêtres ne se souciaient guère de la qualité. Ils laissaient passer un peu n'importe quoi. Et ensuite, de par le marché, ils se plaignaient. Parce que c'est eux qui mangeaient après ces sacrifices médiocres. Et ils disaient que la table de l'Éternel était dérisoire. Et en cela, ils méprisaient Dieu, encore une fois. Et c'est pour ça que Dieu dit au verset 8, « Offre-la, offre cette offrande, donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil ?» Et on comprend très bien la comparaison, n'est-ce pas? Si notre chef au travail nous demande de faire quelque chose ou si notre député au Parlement devait nous demander de faire quelque chose pour lui, nous n'aurions pas envie de le faire d'une manière bâclée. On ne lui dirait pas « Oh, on n'a pas eu le temps cette semaine de le faire bien parce qu'on avait trop de sorties avec nos amis. » Non, nous ferions notre mieux. Et ensuite, pour Dieu? Alors, chez ces prêtres, il y a un vrai laisser-aller. Et ce laisser-aller est un vrai mépris pour Dieu. Il lui offre des offrandes minables. Et ils font semblant que ce n'est pas grave. Alors, ce n'est pas qu'ils aient abandonné le culte. Ils pratiquent la religion. Ils pensent adorer Dieu. Mais en réalité, ils ne l'adorent pas du tout. Ils le méprisent. Ils font le contraire de l'adoration, tout en pensant qu'ils l'adorent. Leur adoration médiocre était un mépris pour Dieu. Et vous savez, Dieu n'est jamais dupe. Dieu ne va jamais accepter une telle adoration. C'est pour ça que Dieu dit au verset 10 que s'ils veulent l'adorer de cette manière-là, autant fermer le temple. Ce n'est pas la peine. Dieu n'en veut pas. Il aimerait mieux rien recevoir que de recevoir ce qui révèle le mépris pour lui. Dieu veut leur cœur. Ça lui importe beaucoup plus que des sacrifices animaliers. Il veut qu'il l'honore comme un bon père. Il veut qu'il le craigne parce qu'il est le maître de l'univers. Alors, verset 11 est un peu intriguant. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce verset. Alors, je pense que les verbes sont probablement à lire au futur plutôt qu'au présent. En hébreu, on ne voit pas trop parfois les temps. Et ça donnerait, donc verset 11, « En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Et partout on fera brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. On présentera des offrandes pures. Oui, mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et cela veut dire que qu'Israël l'adore ou non, Dieu aura sa gloire. Parce que c'est quand même lui le chef de l'univers. Si Dieu veut être honoré et craint, ben il le sera, c'est sûr. Un jour, tout genou fléchira devant lui. C'est chose certaine parce que personne ne peut contrecarrer la volonté du Dieu souverain et libre. Dieu n'a pas besoin d'Israël. Il n'a pas besoin de notre bonne volonté non plus. Il aura sa gloire. Il sera craint de tous. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ce passage, cette partie du passage à notre époque, 2500 ans plus tard? Nous ne sommes pas des Israélites qui vivaient 500 ans avant Jésus-Christ. Nous n'avons pas de temple à Jérusalem. Nous n'avons pas de prêtre de la même manière. En même temps, nous savons que notre Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé d'un iota. Il veut l'honneur. Il veut la crainte qui lui est due. C'est chose normale. Alors, la première piste d'application passe par Jésus-Christ. Nous voyons dans ce passage que si Dieu va être honoré, il faudra des sacrifices parfaits et un prêtre qui l'honore parfaitement. Si nous n'allons pas attirer sa juste colère sur nous, il nous faudra un bon prêtre. Et le Nouveau Testament, et en particulier l'Épître aux Hébreux, nous montre que Jésus est ce prêtre parfait. Celui qui a craint, qui craint son Père, comme un fils obéissant, comme un vrai fils. Il est obéissant jusqu'à la mort. Et il lui offre le meilleur, ce qui est parfait. En fait, ce qu'il offre, sa propre vie, il offre sa propre vie à la croix. Jésus est à la fois le bon prêtre, le bon médiateur entre Dieu et l'humanité, et le sacrifice parfait, le sacrifice adéquat pour solder la dette de nos fautes, pour apaiser la juste colère à l'égard de nos fautes. Et nous savons que Dieu lui a fait bon accueil. Nous le savons parce qu'il a ressuscité d'entre les morts. Il a fait monter à sa droite, d'où il règne aujourd'hui. Nous avons un sacrificateur, un adorateur, que Dieu a agréé pleinement. Si nous voulons offrir le meilleur à Dieu, nous devons réaliser à quel point nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Je pense que c'est une des leçons de base de la vie chrétienne. Notre adoration n'est tout simplement pas à la hauteur. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Nos sacrifices sont loin d'être parfaits. Et en fait, ils sont complètement inadéquats. Mais Dieu, parce qu'il nous aime et parce qu'il aura sa gloire, a donné son Fils pour être le bon sacrifice, le sacrifice qui lui plaît, qui l'apaise pleinement. Et nous devons venir devant lui, non pas avec nos sacrifices médiocres, mais par Jésus, en Jésus, qui lui offre le culte véritable à Dieu, ce culte qui lui plaît. Si nous voulons adorer Dieu, nous devons venir devant Dieu avec la confiance en Jésus, en disant, mon sacrifice ce matin, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, mais c'est Jésus. C'est son sacrifice à la croix, c'est lui seul. À part lui, Père, je n'ai rien. Et on peut nous approcher de notre Père avec confiance, car nous savons que le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant pour Dieu. Et quand nous venons avec rien en nous-mêmes, mais avec Jésus, nous savons que nous pouvons être pleinement acceptés dans sa présence. Et c'est comme ça que nous honorons le Père, en craignant le Fils, en honorant son Fils. C'est une bonne nouvelle, libératrice. La deuxième piste d'application nous pousse un peu plus loin. Nous honorons d'abord le Père en nous accrochant à Jésus seul, à son sacrifice. Mais le Nouveau Testament nous apprend que le croyant qui s'accroche à Jésus est transformé par l'Esprit pour adorer Dieu. Le chrétien collé à Jésus, uni à lui par la foi, devient un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Toute sa vie doit être un sacrifice de reconnaissance. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, donc au chapitre 12, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, donc à la lumière de l'évangile de la grâce, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous offrons à Dieu nos vies tout entières, non pas pour gagner son approbation, nous l'avons déjà en Jésus. Non pas pour l'apaiser, non pas pour réparer nos fautes, c'est Jésus qui fait ça. Mais nous offrons nos vies comme un sacrifice, comme une offrande de reconnaissance. Parce que Dieu a tout fait pour nous en Jésus. Ailleurs, nous lisons que nous ne pouvons pas le faire, ou si nous pouvons le faire que parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Donc même ce sacrifice de reconnaissance est in fine l'œuvre de Dieu lui-même. Alors c'est notre privilège de lui offrir la meilleure part. Parce qu'il nous a aimés, nous l'avons vu la semaine dernière, nous voulons l'aimer en retour, nous voulons vivre pour lui. L'Épître aux Hébreux nous dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Nous voulons l'aimer. Nous voulons aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'adorer. Alors Malachie nous lance un défi solennel, je pense. Par reconnaissance pour Jésus, est-ce que nous offrons la meilleure part à Dieu? Ou est-ce que par lassitude, par oubli ou pire, par mépris, est-ce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes? Est-ce que nous le craignons? Est-ce que cette crainte se voit dans notre manière d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Par notre soutien de l'œuvre de l'Évangile, peut-être par la prière ou par les finances ou par notre temps. Ça se voit aussi peut-être dans notre honnêteté au travail ou par notre manière de nous parler les uns aux autres. Est-ce que nous craignons le Seigneur? Dieu veut tout notre cœur. Il n'en veut pas la moitié. Nous avons été sauvés en vue de l'aimer en retour, de l'aimer pleinement et non pas partiellement quand ça nous arrange ou quand nous avons un peu de temps libre ou un peu d'argent déjà mis de côté. Il veut que nous l'aimions pleinement, maintenant. Alors que Dieu nous aide par son esprit à vivre pour lui. Et la suite du passage nous montre comment il nous aide à faire ça. Au juste. Alors, est-ce que nous grandissons dans la connaissance du roi de l'univers? Et dans cette deuxième moitié du passage, Dieu continue à parler aux prêtres. Verset 1 du chapitre 2. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Et Dieu n'y va pas par quatre chemins. son langage est très vif. Il les a toujours dans le collimateur, dans son collimateur. Il ne les lâche pas parce qu'il veut qu'ils changent, qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à lui. Alors cette fois-ci, Dieu ne pense pas d'abord à leur sacrifice, mais à leur enseignement, aux mots qui sortent de la bouche. Les prêtres d'Israël devaient présenter des offrandes, mais aussi enseigner le peuple. Mais Dieu n'est pas content avec leur enseignement, loin de là. Alors Dieu dit au verset 2 qu'il va transformer leur bénédiction en malédiction. Les prêtres devaient bénir le peuple par leurs mots, par leurs paroles. Alors, il y a une bénédiction très célèbre. Dans Nombre chapitre 6, donc, c'est Dieu qui enseigne Aaron, le prêtre, comment exercer la fonction de prêtre. Dieu lui a dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. » C'est une belle bénédiction. Mais ici, Dieu dit qu'il va maudire le peuple par les bénédictions des prêtres, que leurs bénédictions n'apporteront pas la bénédiction, mais la malédiction. Dieu promet de transformer ces prêtres en antiprêtres, si vous voulez. Ces prêtres vont faire le contraire de ce qu'ils devaient faire. C'est un peu comme s'ils transformaient des médecins en bourreaux. Dieu parle même de jeter à leur visage des excréments des animaux à sacrifier. C'est vrai, c'est un peu dur, ça peut heurter notre sensibilité. Mais en fait, ça veut dire qu'il va les rendre impurs, aussi impurs que ces excréments qui devaient être jetés loin du temple, loin de l'autel. Il parle donc de mettre fin à leur prêtrise, de les limoger. Dieu en a vraiment marre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au juste? C'est le verset 8 qui nous l'explique de manière claire. « Mais vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Ces prêtres enseignaient mal la loi de Dieu. Ils enseignaient d'une manière tordue, d'une manière qui poussait le peuple à pécher contre Dieu, à désobéir à Dieu. Et ça a attristé le Seigneur. Ces prêtres ont trompé le peuple. Le peuple a besoin de connaître Dieu. Le verset 7 nous dit « Les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. » Cette connaissance de Dieu est précieuse. Sa sagesse est plus précieuse que l'or, nous dit les Proverbes. La connaissance de Dieu apporte la vie et la paix, c'est ce qu'on voit au verset 5. C'est ce que le ministère de ces prêtres devait apporter au peuple, la vie et la paix. Une vie de paix avec Dieu, de réconciliation, d'espérance, de bénédiction. Mais les prêtres tordaient la parole de Dieu. Et du coup, leur ministère n'apportait que la mort et la malédiction. Vous savez, la connaissance de Dieu est une vraie lumière. Elle éclaire l'homme et elle lui donne la vie de Dieu, la paix avec lui. Parfois, certains aiment bien dire que les chrétiens sont des réactionnaires obscurantistes. Est-ce que vous avez déjà entendu cette insulte-là? Peut-être que vous craignez un peu cette insulte-là, peut-être au travail ou à la fac, d'être traité de réactionnaire ou d'obscurantiste. Mais vous savez, les hommes et les femmes, les plus éclairés qu'ils soient, sont ceux et celles qui connaissent l'Éternel, le Dieu de lumière. Et c'est ceux et celles qui ne le connaissent pas ou qui suppriment la connaissance de lui, qui sont les vrais obscurantistes. Ils font un peu un transfert psychologique pour mieux se défendre. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Alors ces prêtres, au temps de Malachie, tordaient la parole. Ils étaient devenus des prêtres obscurantistes. Et ça, Dieu n'acceptait pas. Dieu veut être connu tel qu'il est vraiment. Dieu veut que la gloire, sa gloire, soit manifeste. Alors, par compassion, il veut que les hommes et les femmes, les filles et les garçons, le connaissent et le craignent comme il faut. Et si ces prêtres au temps de Malachie ne vont pas le faire connaître, quelqu'un d'autre le fera. Vous savez où je vais en venir. Si on devait poursuivre notre lecture, si on devait lire quelques pages de plus, nous arriverions sur les pages des évangiles. L'évangile de Jean parle de la parole faite chair, la sagesse de Dieu faite chair. De Dieu faite chair. Jésus-Christ est venu. Il nous a dit qu'il est lui-même la lumière du monde, la lumière qui éclaire tout homme. Il est celui sur les lèvres de qui se trouve la vraie connaissance de Dieu. Cette vraie connaissance qui nous conduit à la vie et à la paix. Si vous voulez connaître ce bon Père céleste, il suffit d'écouter les paroles de son Fils, Jésus-Christ. Tel Père, tel Fils. Nous lisons dans l'évangile de Jean, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » C'est le Fils qui a révélé le Père et il nous montre combien il est rempli de grâce et de vérité. Fort heureusement, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance hostile, mais il nous a donné un prêtre, un bon, qui nous le révèle parfaitement, qui nous enseigne parfaitement. Et cette connaissance de lui nous conduit à la vie et à la paix. Et c'est cette vie et cette paix qui nous enseigne à craindre Dieu. Notre passage a commencé en parlant de l'honneur dû au Père et de la crainte due au Maître. Si nous allons adorer Dieu, nous devons être saisis de cette crainte, ce profond respect pour Dieu. Sans cette crainte d'enfant pardonné, nous n'allons jamais vivre pour lui de tous nos cœurs. Et cette crainte ne peut naître que si nous le connaissons tel qu'il est vraiment. Lorsqu'on voit combien il est grand, il est le créateur de tous, il est le juge de tous, quand nous voyons combien il est amour, combien il est rempli de bonté, quand nous voyons à quel point il est saint, autre, pur, quand nous goûtons à la splendeur de sa miséricorde, et nous voyons toutes ces choses en Jésus, son Fils. En voyant Jésus, nos cœurs se mettent à battre, nos genoux commencent à trembler. Sur le visage de Jésus, nous voyons la gloire du Père, la gloire de l'Éternel. Et petit à petit, nos cœurs se donnent à lui. Nous sommes transformés en l'image de son Fils, Jésus-Christ. Nous adorons Dieu par Jésus. Le peuple de Dieu, au temps de Malachie, avait besoin de cette connaissance de Dieu, cette vision de Dieu. Mais le prêtre n'était pas à la hauteur. Mais nous, nous avons un prêtre qui est bien à la hauteur. Ce passage nous lance un défi pour l'Église, mais aussi un défi personnel. Est-ce qu'en tant qu'Église, est-ce qu'on va garder dans notre ministère, dans tout ce que nous faisons, Jésus au centre? C'est lui qui nous donne la connaissance de Dieu. C'est un défi en particulier pour ceux qui enseignent la parole, du haut de la chaire, mais aussi à l'école du dimanche, aux jeunes adultes. Est-ce que nous allons garder, approfondir notre connaissance de Dieu en Jésus-Christ? Le dimanche matin, le jeudi soir, dans les groupes différents, les seniors, les jeunes, est-ce que nous sommes convaincus de notre besoin de cette connaissance pour avoir cette crainte, pour ensuite vivre pour lui? Notre besoin fondamental, c'est de connaître Dieu, de le connaître en Jésus, pour que nous donnions à lui, que nous lui donnions l'honneur qui lui est dû. Alors, on pourrait peut-être lâcher un peu de lest en passant beaucoup plus de temps sur les questions de société, l'éducation chrétienne ou les questions d'éthique comme l'avortement ou le mariage chrétien. Il y a une place pour ces sujets. Ces sujets sont importants. Il ne faut pas qu'on soit ignorant de ce qui plaît à Dieu. Mais nous avons d'abord, avant tout, besoin de cette connaissance de Jésus. Nous pourrions parler peut-être plus de choses où qu'on pense plus pratiques. Le chrétien et l'argent. Le chrétien et son travail. Et oui, il faut parler de ces choses. Alors, j'espère qu'on parle de ces choses. Mais notre besoin fondamental, c'est de connaître Dieu, de connaître Jésus, pour craindre Dieu. Jésus nous conduit à la vie et à la paix. Et le verset 5 du chapitre 2 nous dit que cette vie et cette paix, ce salut en Jésus, nous conduit à craindre Dieu, à adorer Dieu. Alors, c'est un défi personnel aussi. Est-ce qu'on désire cette connaissance de l'Éternel? Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce qu'on lit sa parole? Est-ce qu'on lit sa parole dans la semaine? Est-ce qu'on la médite? Est-ce qu'on peut dire avec le psalmiste, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Et ce même psalmiste, donc c'est le psaume 119, dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors c'est encore le début de l'année, hein, tout juste. Pourquoi ne pas réfléchir à comment nous allons lire la parole cette année? Peut-être à quel moment de la journée? Quel livre biblique? Pourquoi ne pas commencer au début? Peut-être au début de l'Ancien Testament ou au début du Nouveau Testament ou à lire un chapitre de chaque tous les jours. Donc je serais content de parler avec vous si vous voulez des pistes pratiques. Pourquoi ne pas parler entre nous les uns aux autres de notre lecture de la parole pour nous aider, pour nous encourager? Posons peut-être la question, qu'est-ce que vous lisez dans la parole en ce moment? Pourquoi ne pas poser cette question à quelqu'un avant de partir ce matin? Qu'est-ce que vous lisez dans la parole en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien en particulier? Nous avons besoin de nous encourager mutuellement. Alors c'est vrai, parfois, on est un peu là de louer Dieu. Malheureusement, il peut y avoir du laisser-aller dans nos vies. Et je pense que nous avons tous connu ces moments-là. Peut-être que vous passez par des moments comme ça en ce moment. Que faire? Revenir à Dieu. Comment revenir à notre connaissance de lui, de qui il est, ce qu'il a fait, au salut que nous avons en Jésus. Remercions notre bon Père Céleste pour notre grand prêtre Jésus-Christ, son Fils, ce prêtre parfait qui présente un sacrifice parfait, qui nous révèle parfaitement le Père, qui nous réconcilie parfaitement au Père. En lui, nous avons la vie et la paix. Et demandons-lui dans la prière de nous aider en Jésus à le louer de tout notre cœur, sans réserve, toute la semaine. Je vous invite à la prière. On va demander à Dieu de nous aider à le louer de tout notre cœur. Merci, notre Père, de ce que tu ne nous as pas laissé dans notre ignorance hostile à toi, dans notre mépris pour toi. Mais tu nous as donné un prêtre. Tu nous as donné un sacrifice parfait. Ton Fils, son sacrifice à la croix. Notre Père, nous étions de nature, nous sommes comme ces Israélites qui n'arrivent pas à présenter de bons sacrifices. Mais tu as pourvu en Jésus-Christ. Et nous voulons nous accrocher à lui seul ce matin. Il est notre sacrifice. Il est notre adoration auprès de toi. Et nous te remercions de ce que nous pouvons nous approcher de toi ce matin avec confiance. Parce que nous sommes, si nous avons mis notre foi en lui, collés à lui, nous sommes à lui, avec lui. Et notre Père, nous voulons te demander de nous aider par ton esprit, par le vouloir et le fait que tu nous donnes de vivre de manière entière pour toi cette semaine, de nous donner corps et âme à toi. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aide-nous à te louer par nos mots, nos gestes, notre manière de parler, notre usage de notre temps, de notre argent. Aide-nous à te donner nos vies comme un culte raisonnable. Nous avons bien besoin de ton aide pour le faire. Nous voulons te demander de faire cette œuvre en nous qui te plaît. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.